Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est l'édition du jeudi 24 mai 2018 déjà. Hélène Denis avec vous. Et avec nous, il est de retour. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais à merveille.
Oui, vous avez un petit teint. Est-ce qu'il a fait beau? Vous étiez en Europe?
Oui, il a fait soleil.
Tout le
et
temps?
Comme j'ai, oui, oui, oui.
Ah, vous
une
avez été
soirée
chanceux.
Où il y a plu, mais sinon, j'ai extérieur au gros soleil.
Et est-ce que c'est indiscret de vous demander où vous étiez?
Non, pas du tout.
Dans les
je suis
vieux
allé
pays?
Paris et l'Allemagne, le nord de l'Allemagne.
Ah.
Et j'ai découvert
oui.
Le Free Walking Tour.
Le Free Walking Tour. En français, s'il vous plaît?
Des marches, des guides. En fait, c'est des visites guidées gratuites à pied.
C'est super.
C'est un site qui s'appelle Free Walking Tour, puis on s'inscrit, on choisit les villes. Je l'ai fait à Paris, je l'ai fait à Cologne et je l'ai fait à Berlin.
Mais là, il faudrait que ça se passe à Montréal.
Il y en a à Montréal.
Ah oui, il y en a.
Oui, oui, oui. Et c'est donné par des bénévoles.
Des gens qui connaissent bien la ville.
Exact. C'est des locaux qui nous amènent sur des sentiers. À Paris, il y en a plusieurs.
Qu'est-ce que vous avez découvert grâce à ces marches-là?
La ville de Cologne, en fait.
Oui.
Que je connaissais un peu, j'y étais déjà allé, mais je vous invite en fait de faire même celle de Montréal.
Ben, ça me
parce qu'il y en a une dans le Vieux-Port. J'ai pas fait le tour encore, mais je vais les faire parce que c'est vraiment quelque chose de fort agréable. Et comme on était peu nombreux dans le groupe, ça nous permet de poser des questions.
Ah, oui.
Ça a vraiment été...
C'est combien de temps environ, la
marche? Ça va de 1 heure à 2 heures.
Est-ce qu'on s'arrête pour prendre un petit quelque chose à manger ou
tours,
à boire?
Non. Ben,
on apporte sa bouteille.
Ça dépend du guide aussi.
Oh,
ça dépend
oui.
si le temps le permet. Nous, à Paris, on a juste posé plus de questions. On a fait plein de détours.
Wow.
Et c'était sa première visite. Donc, non, j'ai vraiment apprécié.
Oui,
c'est vrai.
Alors, rappelez-nous, Mathieu, le nom de
la
compagnie.
En anglais, c'est
type?
Free, donc gratuit. Walking, comme marché. Tour, comme un tour guidé. Donc, Free Walking Tour.
En attendant d'essayer ça à Cologne, on va essayer ça à Montréal.
À Montréal, oui. Puis, je connais quelqu'un, la personne avec qui je les ai fait en Europe, l'a fait à Montréal. Et elle est une grande habituée des Free Walking Tours et à chaque ville qu'elle visite, elle les fait.
Mais là, il faudrait faire un reportage là-dessus. J'ai jamais lu quelque chose
non.
là-dessus, non. Mathieu,
voilà.
Envoyez un texte à un des journaux et puis je vais vous lire.
D'accord.
Alors, allez-y avec les éphémérides.
Donc, c'est la journée mondiale du bricolage aujourd'hui. Mais que s'est-il passé? Nous sommes le 24 mai. En 2013, la chef autochtone canadienne Teresa Spence quitte l'hôpital où elle avait été gardée en observation après avoir mis fin à un jeûne de 44 jours. En 2009, la direction du Journal de Montréal décrète un lock-out à l'égard de ses 250 employés de la rédaction et du bureau. Et de bureau. En 1999, 6 membres du Comité international olympique sont exclus pour l'affaire de corruption de Salt Lake City. En 1990, à Ottawa, un certain Jean Charest, alors ministre responsable de la jeunesse, démissionne, étant intervenu auprès d'un juge en faveur d'un athlète. En 1988, à Sainte-Clotilde, près de Victoriaville, un incendie cause la mort de 9 handicapés mentaux dans un hospice. 1984, le fabricant Apple lance son premier ordinateur Macintosh. En 1978, un satellite russe, vous savez que j'aime beaucoup ce qui se passe dans l'espace, un satellite russe à pile atomique, le Cosmos 954, se désagrège au-dessus du territoire du Nord-Ouest et des débris atteignent le sol et Moscou paiera plus tard 3 millions de dollars en dommages au Canada. En 1960, mené par le député Pierre Lagaillarde et le cafetier Joseph Ortiz, les Pieds Noirs Ultra d'Alger lancent la semaine dite des barricades qui fera 29 morts. Leur général favori, Jacques Massu, venait d'être muté par Charles de Gaulle. En 1952, Vincent Massé, né à Toronto, est nommé gouverneur général du Canada. Il est le premier qui ne soit pas un Britannique. 1946, création de la Commission de l'énergie atomique du Canada, le projet d'une première centrale à rapide des Joachins sur l'Outaouais sera lancé le même jour, donc un 24 mai, mais en 1955. Et pour ce qui est des naissances, j'en ai noté deux. L'acteur français Michel Serrault.
Oui, disparu malheureusement.
Oui, en 2007. Et le comédien français Daniel Auteuil, né un 24 mai 1950.
Toujours vivant.
Toujours vivant, comme la chanson de Jerry Boulet. Et, désolé, et pour ce qui est des décès, nous avons le décès de Winston Churchill, 1965, donc reporter et homme d'État anglais, qui était né, lui, en 1874. Et le regretté peintre italien Amedeo Modigliani, qui était né, lui, en 1884, nous a quittés un 24 mai 1920.
Il y avait une grande exposition sur l'œuvre de Modigliani à Québec. Malheureusement, j'ai manqué ça parce que c'est terminé maintenant.
Mais oui.
Meilleure chance la prochaine fois. Merci, bon Mathieu. À la une de la presse d'aujourd'hui, deux policiers arrêtés pour avoir maltraité un sans-abri. L'affaire avait apparemment été étouffée à l'époque. 8 ans plus tard, Patrick Gay et Pierre-Luc Furlotte, deux agents du SPVM, ont été arrêtés hier pour avoir abandonné un itinérant à la campagne. La chronique d'Yves Boisvert intitulée « Silence, Locke-Merville ». La chronique de Patrick Lagacé, Atalante débarque chez Vice. Pause repas, l'art de la glace maison. L'affaire de la déportation avait apparemment été étouffée à l'époque, même si la victime, Toby Charles Anger Levasseur, avait déposé une plainte en bonne et due forme. Les faits ont été mis au jour par l'équipe mixte créée par le gouvernement afin de revérifier les anciens dossiers d'affaires internes du corps policier montréalais. Il s'agirait d'ailleurs des premières arrestations découlant d'une enquête effectuée par cette équipe mixte depuis sa création à la fin de février 2017, à la suite d'allégations d'irrégularités internes au SPVM. Selon nos informations, les agents Patrick Gay et Pierre-Luc Furlotte avaient eu maille à partir avec le sans-abri alors dans la vingtaine au centre-ville de Montréal le 31 mars 2010. Toby Charles Anger Levasseur avait déjà plusieurs antécédents criminels à l'époque, mais ce jour-là, les policiers ne l'ont pas mis en état d'arrestation. Pour se débarrasser de lui, il l'aurait embarqué de force dans une voiture de patrouille pour aller le déposer dans un coin reculé, bien en dehors de l'île de Montréal, en chemin vers l'Ontario. Il a été impossible de le savoir hier quand et comment l'itinérant est revenu en ville. La nuit suivante, le mercure est descendu sous les 2 degrés Celsius selon les archives de Météo Média. La virée vers l'ouest des patrouilleurs les avait d'ailleurs menés bien en dehors de leur secteur de travail. Les deux policiers, qui avaient de bons états de service jusqu'ici, font maintenant face à des accusations de séquestration, voies de fait et menaces envers M. Anger Levasseur. Il a été impossible hier de joindre le plaignant qui s'est sorti de l'itinérance au cours des 2 dernières années, mais qui a continué à avoir des problèmes avec la loi. Il purge en ce moment une peine de 5 ans de pénitencier pour une affaire de stupéfiants pour laquelle il a plaidé coupable en janvier. Toujours selon nos informations, l'équipe mixte d'enquêteurs s'intéresse aussi à la façon dont l'ancien patron des affaires internes au SPVM, Costa Labosse, aurait géré la plainte contre les patrouilleurs à l'époque. La chronique de Patrick Lagacé intitulée « Les goons débarquent chez Vice ». Des militants d'extrême droite du groupe Atalante sont descendus de Québec pour entrer sans invitation dans les bureaux montréalais de Vice, où ces messieurs à gros bras cachés derrière des masques ont foutu le bordel. Ça s'est passé hier dans Griffintown. Chez Vice, personne n'a reçu de claque sur la gueule, mais la manœuvre avait un but évident. Intimider. Intimider qui? Le journaliste Simon Coutu, qui enquête sur les mouvances identitaires et d'extrême droite depuis quelques années. Il venait justement de sortir un papier la semaine dernière qui montrait qu'Atalante noue des liens avec d'autres groupes identitaires en plus de faire des incursions à Montréal. Cette tentative d'intimidation est évidemment un scandale. C'est évidemment une attaque contre la liberté d'informer. C'est une attaque contre Vice en particulier et contre les journalistes qui enquêtent sur les mouvances identitaires en général. En anglais et en français, Vice scrute avec brio ces mouvements identitaires qui carburent à la haine des « étranges », entre guillemets. Avec Simon Coutu du côté franco, Marc Lamoureux, plutôt Mac Lamoureux, et Martin Patriquin décortiquent ces réseaux d'extrême droite avec des enquêtes qui montrent leurs méthodes, leurs vues et leurs ambitions violentes. Personne n'a reçu de claque hier chez Vice, mais c'est dans la nature de l'intimidation de ne pas fesser, mais de faire craindre plutôt. Quand on vient faire du vacarme dans la salle de rédaction de médias en portant les couleurs d'un groupe d'extrême droite dont des membres ont soit commis des actes violents ou affirmé leur volonté d'en commettre, le message est clair. Watchez-vous. Bon, on ne raisonnera pas des gens qui pensent que la force brute et les claques sur la gueule sont une façon de faire avancer des idées. Mais espérons que la police, elle les a dans sa ligne de mire. Atalante n'a pas été invité chez Vice. Il a volontairement causé un boucan que ses membres ont filmé et diffusé sur leurs réseaux sociaux. Il y a au minimum un potentiel de méfait là-dedans. Et la dernière fois que j'ai vérifié, il y a un article du Code criminel qui porte là-dessus. Titulaire des finances dans le gouvernement de Pauline Marois, Nicolas Marceau ne sollicitera pas de nouveau mandat aux élections générales du 1er octobre. Des sources proches du député de Rousseau indiquent que l'annonce de ses intentions devrait être faite en juin. Joint hier en fin de journée, le principal intéressé se défendait d'avoir arrêté sa décision. « Ma décision n'est pas prise. Mon entourage connaît mes états d'âme, mais formellement, je n'ai pas arrêté de décision », souligne-t-il. Les avocats se prononcent ce soir sur la démarche du barreau. Démarche politique inacceptable ou protection légitime des intérêts du public. Les membres du barreau du Québec se prononceront aujourd'hui sur le recours des barreaux du Québec et de Montréal pour faire déclarer inconstitutionnel le processus d'adoption des lois à l'Assemblée nationale. Pour la deuxième fois de l'histoire de leur ordre professionnel, les avocats de la province se réuniront en Assemblée générale extraordinaire en soirée à Montréal afin de se prononcer sur trois propositions qui visent à forcer le barreau à se désister de son recours intenté en avril et à les consulter avant d'entreprendre toute autre démarche de nature politique. Les barreaux allèguent dans leur procédure que les lois du Québec ne sont pas adoptées simultanément en français et en anglais à l'Assemblée nationale, comme le veut l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867. Il demande à la Cour supérieure de déclarer ces lois invalides et d'ordonner à Québec de les adopter de nouveau, mais cette fois en respectant la Constitution. En pratique, précise le bâtonnier du Québec Paul-Mathieu Grondin, cela impliquerait pour l'Assemblée nationale d'embaucher des jurilinguistes qui traduiraient les lois en anglais, tandis qu'elles sont débattues en français plutôt qu'après, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Nombre d'années de prison qu'une mère de famille devra purger à Birmingham, en Angleterre, pour avoir marié sa fille de force au Pakistan. Il s'agit de la première condamnation dans ce type d'affaires au Royaume-Uni depuis l'introduction d'une loi en 2014 faisant de l'incitation à un mariage forcé un délit. Et pour terminer, malgré une moindre participation à une nouvelle séquence de grève hier, les cheminots français restent vent debout contre la réforme de la compagnie ferroviaire française, SNCF, rejetée par 95% d'entre eux selon un vote interne. Trois jours avant une nouvelle série de rencontres autour de ce projet avec le premier ministre Édouard Philippe et à un moment où la réforme commence à être examinée par le Sénat, Les syndicats ont présenté les résultats de la consultation organisée du 14 au 22 mai. Conclusion, 95 % de non et un taux de participation exceptionnel d'environ 61 %, a annoncé Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Cheminots. Il a appelé le gouvernement à écouter les cheminots hostiles à cette réforme qui prévoit l'ouverture à la concurrence et à la transformation de la SNCF en société anonyme à capitaux publics.
Un cadeau pour moi, non, bon, ça va aller vite, garde ton manteau sur le dos. Pour dire la vérité, ça fait pas mal longtemps que j'ai pas pensé à toi, fait que rappelle-moi donc comment que ça se fait que je te connais. Ah oui, t'es l'ami d'un ami, d'une amie, à demi-ami d'une amie de Mimi, que t'as mis dans le lit d'une mamie, ami, ami. Pensez pour toi peut-être, les amis, c'est comme le vin. Quand ça donne mal à la tête, c'est parce que ça vaut rien. Même d'un moment, toi, sincèrement, t'es le genre de gars qui comprend vite. Peut-être, mais ça prend toujours un peu de temps. Sont bons tes arguments, t'es l'idée d'un bout la mythe. À la limite, un jour vont valoir cher au milieu du désert. T'es bien tenace, qualité que j'aime. C'est signe comme quoi t'as bien de la classe. Mais comme on dit, rien que ta troisième. Tu prends mon nom, N-O-N-O. Tu lis les lettres à travers la langue. Then one more time, mais ça fait toujours non, non. T'es gros, t'es fort, mais c'est pas grave. Tu vas sortir quand même, ça me prendra deux voyages. Quand je baisse les brosses pour pogner mon gun, va comme bienvenue si tu t'en vas. Salut, bye bye, dégage.com. Tu peux rendre service à la société. Que je te dis mon ami, je te verrai bien comme guitariste dans le métro de Matagami. Là, j'exagère un petit quelque part. La belle visite, elle me fera toujours plaisir. Pas quand t'arrives, mais quand tu pars.
Oh. La grande visite, Richard Desjardins.
À la une du Devoir de ce 24 mai 2018, une photo troublante, soutien canadien aux Rohingyas. Des enfants Rohingyas derrière des barbelés dans un camp dans l'État de Rakhine. Le Canada a annoncé mercredi qu'il débloque 300 millions pour venir en aide à ce peuple persécuté. Au Myanmar, des centaines de milliers d'entre eux ont fui au Bangladesh voisin. Bob Rae, émissaire du Canada au Myanmar, avait recommandé au Canada une aide humanitaire de 600 millions de dollars. On voit justement un garçon derrière des barbelés avec un visage et des yeux surtout d'une tristesse et qui évoque un peu l'inquiétude. C'est mon interprétation. Cachent les poubelles des hôpitaux, les plateaux d'instruments médicaux à usage unique se multiplient pour des raisons d'économie. 1933-2018, un géant des lettres américaines, Philip Roth, était abonné au scandale littéraire. Philip Roth avait cessé d'écrire, estimant qu'il ne pourrait faire mieux que ce qu'il avait déjà écrit. Et pourquoi faire moins bien, demandait-il alors avec une photo qui accompagne ce commentaire. Culture, parler vrai. Un livre de Manon Massé qui a appris à choisir ses mots pour mieux faire avancer les causes qu'elle défend. Et l'obsolescence est aussi l'affaire des consommateurs, prévient Équiterre. Et en plein milieu de la page à la une du Devoir, un jeune athlète sur quatre victime de violences sexuelles. Chez les sportifs de 14 à 17 ans, les agressions touchent autant les garçons que les filles. Un jeune athlète sur quatre rapporte avoir été victime de violences à caractère sexuel en contexte sportif, révèle une nouvelle étude qui chiffre pour la première fois la prévalence de ce phénomène au Québec. Chaque fois que je présentais des chiffres sur la violence sexuelle en milieu sportif, je devais me référer à des données belges ou allemandes car il y a très peu d'études sur le sujet. Et on me répondait toujours, peut-être que ce n'est pas pareil au Québec. Eh bien maintenant, on les a, ces chiffres pour le Québec, et ceux-ci démontrent clairement qu'il y a urgence d'agir, soutient la chercheuse Sylvie Parent de l'Université Laval qui a piloté l'enquête. La chercheuse a sondé plus de 1000 jeunes athlètes âgés de 14 à 17 ans qui évoluent dans le sport organisé au Québec. De ceux-ci, 28 % ont rapporté avoir vécu au moins un épisode de violence sexuelle. C'est beaucoup, constate la chercheuse, qui précise que la définition de violence sexuelle utilisée dans le questionnaire est assez large. On parle de harcèlement, déshabillé du regard, frôlement répété, gestes de fellation ou autres remarques à caractère sexuel non désiré ayant rendu la personne mal à l'aise jusqu'au viol en passant par la production de matériel pornographique. La chercheuse a également pris la peine de ne pas utiliser les mots forcés ou non désiré pour parler des rapports sexuels avec un entraîneur, ayant constaté au fil du temps que beaucoup de jeunes normalisent les relations sexuelles avec l'entraîneur et n'ont donc pas eu l'impression d'être forcés, même si, par définition, il ne peut y avoir de consentement lorsqu'une personne est en position d'autorité. Et il n'y a pas que les entraîneurs qui sont en cause. En effet, près de 60 % des jeunes disent avoir été victimes d'un autre athlète et 20 % de leur entraîneur. Enfin, un peu plus de 20 % des jeunes disent avoir été la cible à la fois d'un entraîneur et de coéquipiers. Malgré ces données préoccupantes et l'urgence d'agir, la chercheuse tente de rassurer les parents. « Je ne veux pas dire aux gens de ne plus inscrire leurs enfants dans des activités sportives. Il ne faut pas faire peur au monde, mais il faut reconnaître qu'il y a un problème et trouver des façons de s'y attaquer. » Elle recommande aux parents de s'informer des politiques mises en place dans l'organisation sportive où leur enfant évolue, et rappelle qu'il existe une ligne d'écoute nouvellement mise en place par l'organisme Sport Aide qu'elle a cofondée pour les parents, les athlètes et les organisations sportives qui ont besoin d'aide. L'administration Plante veut agrandir 3 parcs nature. Montréal entend agrandir la superficie de 3 parcs nature, dont celui du Bois d'Anjou, par l'annexion en partie ou en totalité du club de golf métropolitain Anjou. Le maire d'arrondissement, Louis Miranda, visait plutôt du développement industriel dans ce secteur. Le comité exécutif a franchi mercredi une première étape vers l'expansion du Bois d'Anjou. En modifiant le règlement 72 relatif à l'établissement de parcs à caractère régional, une procédure obligatoire pour agrandir un parc nature, la Ville pourra étudier différents scénarios. Aussi, mais là ne s'arrêtent pas les ambitions de la Ville. Jeudi, la mairesse Valérie Plante doit dévoiler en compagnie de son homologue de Sainte-Anne-de-Bellevue, Paula Awa, les détails concernant l'agrandissement du parc nature de l'Anse-à-l'Orme. Luc Ferrandez souhaite aussi, à terme, intégrer au parc nature le secteur de Pierrefonds-Ouest, un territoire de 185 hectares appartenant à des intérêts privés qui prévoit d'y construire 5 500 habitations. Un troisième projet d'agrandissement de parc devrait aussi être annoncé au cours des prochains jours. Si on veut atteindre la cible de 10 % d'éco-territoires protégés à Montréal, il va falloir qu'on se mette à la vitesse grand V, a indiqué Luc Ferrandez. Les groupes environnementaux ont salué les engagements de la Ville. La femme qui a été exploitée sexuellement par Locke-Merville lorsqu'elle était mineure a quitté le palais de justice désillusionnée, même si elle savait d'avance que le chanteur éviterait la prison ferme. Elle vit du désappointement et une certaine frustration, a concédé la procureure de la Couronne, maître Anne Gauvin. Locke-Merville a été condamné mercredi à une peine de 6 mois de prison à domicile après avoir reconnu avoir exploité sexuellement l'adolescente en 1996, alors qu'elle était âgée de 17 ans. La juge Hébert a ainsi accepté la suggestion commune des avocats de la Couronne et de la Défense dans ce dossier. Un juge doit accorder beaucoup de respect à une suggestion commune. Il peut intervenir uniquement si elle est totalement déraisonnable, indique l'avocat criminaliste Walid Ijazi. Locke-Merville devra demeurer chez lui 24 heures sur 24 durant les 3 premiers mois de sa peine, sauf pour aller à l'épicerie les lundis, pour aller reconduire son fils à l'école ainsi que pour son travail, qu'il soit rémunéré ou non. Il purgera ensuite les 3 autres mois avec un couvre-feu la nuit, suivi d'une probation de 12 mois. Inquiète du discours alarmiste et populiste de la Coalition Avenir Québec, la fiscaliste Marois Risky a choisi de se présenter sous les couleurs du Parti libéral du Québec aux prochaines élections d'octobre. Madame Risky, qui s'était d'abord présentée pour les libéraux fédéraux en 2015, dit avoir senti le besoin de s'impliquer dans cette élection décisive. Elle souhaite combattre les propositions du chef de la CAQ, François Legault, sur les nouveaux arrivants qu'elle a comparés à la petite noirceur. Les produits pour enfants qui contiennent de la benzocaïne sont trop dangereux pour être en vente libre, a statué l'Agence américaine de régulation des médicaments. La Food and Drug Administration ordonne à toutes les compagnies qui les commercialisent de les retirer des rayons. La décision américaine pour influencer Santé Canada a emboîté le pas, mais la substance est pour l'instant en réexamen, a-t-on précisé au Devoir. La benzocaïne se retrouve le plus souvent dans des gels utilisés pour leurs propriétés anesthésiques sur les gencives des nourrissons lors des poussées dentaires douloureuses. Au Canada, ces produits sont notamment commercialisés sous les marques Ambusol, Oragel et Cepacol.
I'm not afraid to die.
groupe s'appelle Lisbonne Telegram et la chanson Oubli.
De la presse, une dame qui a l'air très heureuse, prix de l'essence, automobiliste en colère, point de suspension, sauf elle. Marie-Josée Rainville de Repentigny se réjouit de ne plus devoir se soucier du prix à la pompe maintenant qu'elle est propriétaire d'une Kia Soul électrique depuis novembre. La chronique de Richard Martineau intitulée « Des femmes pédophiles » et la chronique de Michel Girard « L'arnaque de l'essence ». Sport hockey, Coupe Stanley, ce sera Vegas contre Washington. La chronique de Richard Martineau, oui, cette femme est une pédophile. Comme vous, je suis fascinée par l'histoire de Virginia Genévrier, cette éducatrice de 40 ans qui a eu une relation avec une fillette de 11 ans. Avez-vous vu comment on évite le mot pédophile lorsqu'on parle de cette femme? On dit qu'elle s'est amourachée de la fillette, qu'elle était obsédée, qu'elle l'avait prise sous son aile car elle avait vécu une enfance malheureuse, etc. On marche sur des œufs, et on met des gants blancs jusqu'au coude. N'importe quoi pour ne pas prononcer le gros mot. Si c'était un éducateur de 40 ans qui avait eu une relation avec une fillette de 11 ans, on n'aurait pas hésité une seconde et on aurait écrit le mot « pédophile » en super gros. Un cas flagrant de deux poids, deux mesures. Ça aurait été la manchette « éducateur pédophile à Verdun ». Tout cela donc écrit en majuscule avec un point d'exclamation. Ou un éducateur agresse une fillette de 11 ans, toujours en majuscule avec un point d'exclamation. Mais étant donné que c'est une éducatrice qui est impliquée et non un éducateur, on met l'accent sur l'aspect émotif de l'histoire. Je m'excuse, mais on ne parle pas d'une relation platonique entre une écolière en manque d'affection et une femme qui avait un instinct maternel particulièrement développé. Il y avait une composante sexuelle dans cette relation, écrit Richard Martineau. L'éducatrice se photographiait nue sous la douche et envoyait ses images à sa dulcinée, entre guillemets. Imaginez un éducateur qui envoie une photo de son pénis à une élève de 11 ans. Comme dans les cas des mères qui tuent leurs enfants, c'est un cas flagrant de deux poids, deux mesures. Pourtant, la délinquance sexuelle féminine existe bel et bien, et elle est plus courante qu'on ne le croit. Il y a un an, Franca Cortoni, psychologue spécialisée en agression sexuelle à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, dévoilait les résultats d'une étude portant sur la délinquance sexuelle féminine dans le cadre d'un congrès sur les agressions sexuelles. Selon cette étude, les femmes qui commettent des agressions sexuelles seraient 6 fois plus nombreuses que ce que disent les statistiques officielles. On estime que 12% des crimes sexuels rapportés à la police seraient commis par des femmes. Avant, expliquait Mme Cortoni au Devoir, on traitait ces femmes comme des malades. On les dirigeait vers le système de santé plutôt que vers le système de justice, comme si elles n'étaient pas responsables de leurs actes. Mais aujourd'hui, on les traite comme des criminels. Il y a un changement qui se fait graduellement dans la société. Si on prend l'exemple d'un enseignant de 35 ans qui s'engage dans des contacts sexuels avec une fille de 14 ans, personne n'hésite à dire que ce n'est pas correct. Mais quand on tourne ça à l'inverse, une femme avec un garçon, on dit « mais oui, mais les garçons aiment ça ». C'est à cause de tous ces stéréotypes qu'on ne s'est pas beaucoup intéressé à la délinquance sexuelle chez les femmes. Pour le sexologue clinicien Mario Larrivé-Côté, pas de doute, Virginia Genévrier est bel et bien une pédophile. Le fait qu'elle soit une femme ne change rien à l'affaire. Donc, c'est la chronique du jour de Richard Martineau intitulée « Oui, cette femme est une pédophile ». Migrants ont déjà reçu leur permis de travail. Les demandeurs d'asile ont toutefois de la difficulté à trouver des emplois stables. Beaucoup de ces migrants sont pressés de trouver un emploi afin de gagner leur vie sans avoir recours au chèque du gouvernement. Ceux que je vois se sentent mal de recevoir l'aide sociale, affirme Zined El Alami, conseillère en emploi de l'organisme Impulsion Travail basé à Montréal-Nord. Il voit cela comme quelque chose de presque insultant. Bien que de nombreuses offres soient disponibles en région, les demandeurs d'asile de Montréal peinent toujours à obtenir autre chose que de courts contrats via des agences de placement. Wikin Dezina, une mère de famille haïtienne arrivée irrégulièrement au Québec l'été dernier, a ainsi enchaîné les petits boulots à Montréal après avoir obtenu son permis de travail en novembre. Ces courts contrats, le plus souvent pour des emplois de manutention. Ces courts contrats, le plus souvent pour des emplois de manutention, nuisent à l'intégration des nouveaux arrivants, explique Nisrin Al-Yahia, coordonnatrice de projet en employabilité pour l'organisme montréalais La Maisonnée, qui travaille entre autres avec des demandeurs d'asile. Pour permettre aux nombreux demandeurs d'asile haïtiens arrivés depuis l'été dernier d'accéder à des postes permanents, Impulsion Travail a mis en place en début d'année un programme de formation à la recherche d'emploi. En 5 semaines, l'organisme introduit des groupes d'une dizaine de personnes aux réalités du marché québécois, en les aidant à rédiger leur CV et à préparer un entretien d'embauche. Après avoir suivi cette formation, Wikin Dezina a finalement obtenu le mois dernier un poste permanent à Montréal chez Olimel, une entreprise spécialisée dans la transformation de la viande. « Maintenant, je travaille toute la semaine et je me sens plus stable », assure-t-elle. Olimel indique avoir recruté environ 200 demandeurs d'asile, comme Mme Dezina, depuis l'été dernier. Mathieu Tessier, arrêtez de me faire rire. Un peu de sérieux. À quelques jours du G7, le premier ministre Justin Trudeau a pris un bain de foule de plus d'une heure hier soir avec les citoyens de la Malbaie qui voulaient discuter avec lui ou se faire prendre en photo. Dans 2 semaines, quand on va accueillir le monde ici dans Charlevoix, les gens vont voir à quel point le paysage est magnifique. Mais c'est surtout les gens et l'accueil qui est magnifique. Je veux vous dire merci, a affirmé Justin Trudeau. Michel Blanc se présente dans Bertrand ou Mercier. Le suspense est terminé pour Michel Blanc qui a décidé de répondre aux provocations de la gang de Québec solidaire en briguant l'investiture péquiste dans le comté d'Amir Kadir. Du côté du Parti québécois, on refuse pour l'instant de confirmer l'information. On n'a pas encore de date de convoquer pour une investiture dans Mercier, c'est limité à dire le directeur des communications de la formation politique, Yannick Grégoire. Michael Jean dans l'eau chaude à l'OIF, la France appuie une candidature, une candidate rivale de l'organisme francophile. Le premier ministre Philippe Couillard est demeuré prudent après l'annonce de l'appui officiel français à la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo. Il faut d'abord que les candidatures se déclarent officiellement, que Mme Jean indique si elle désire ou non solliciter un nouveau mandat, a-t-il dit à Montréal. En avril dernier, l'appui du Québec à Mme Jean ne faisait pas de doute. À Paris, le président français Emmanuel Macron a confirmé hier l'appui de la France à Mme Mushikiwabo. La ministre des Affaires étrangères du Rwanda a toutes les compétences pour exercer cette fonction de secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a rapporté l'agence France-Presse. La ministre du Développement international et de la francophonie, Marie-Claude Bibeault, a réagi sans équivoque. « Notre gouvernement appuie le renouvellement du mandat de Michaël Jean à la tête de l'OIF », a-t-elle dit dans une déclaration écrite. Madame Jean a été élue secrétaire générale de la francophonie en 2014. Le renouvellement de son mandat sera décidé lors d'un sommet prévu en octobre. Et pour terminer, les milieux ruraux veulent leur juste part et se mobilisent pour obtenir plus d'investissements. Pour stopper l'hémorragie, plusieurs acteurs, avec à leur tête le compteur Fred Pellerin, se sont mobilisés hier à Québec dans le cadre du mouvement Tous ruraux. Avec des régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a perdu près de 1040 résidents par année de 2001 à 2016, au profit des grands centres, la situation est préoccupante. Les milieux ruraux au Québec font face à de nombreux défis. Les personnes âgées de 45 à 64 ans représentent près de la moitié de la population en âge de travailler.
Il faut être encore un enfant, puis se lever à l'heure des poules, voir le soleil qui nous attend pour apparaître au fond de la cour. Ceux qui ont grandi au village ont vu tomber les lampadaires devant l'aurore quand le ciel charge pour le spectacle son et lumière. Un jour que j'avais questionné, mon père m'avait pris par la main, m'avait amené au poulailler voir où se forge le bruit du matin. Au vide, le soleil se lève, je l'ai entendu. C'est-tu le jour qui chantait dans le fond de ta cour tous les matins? On va pas se perdre d'un calembour, mais il faut bien vous dire son nom. Le propriétaire de la basse-cour, je vous le présente. Ovide Sanson, c'est la maison jaune aux moulures blanches, pas loin du coin Saint-Paul-Saint-Pierre, comme un soleil pastel qui penche, ou bien comme un faux miroir. Fallait marcher dans le gazon, aller plus loin que les pommiers, les pattes courtes c'était long, j'apportais du pain séché. C'était en plein la belle époque, le vent flippait la girouette. Le coq avait une bonne cote, puis les poules faisaient les coquettes. Au vide, le soleil se lève, je l'ai entendu. C'est-tu le coq qui levait le jour, tous les matins dans le fond de ta cour? Il est temps, fais mille tours, à moi de répondre à mon fils, que le soleil, il est pas sourd, mais qu'il ne fait pas de musique. J'ai joué au père, qui sait quoi, une histoire, puis un bout de pain. J'ai vu mon fils, puis c'était moi, les pattes courtes, puis c'était loin. Elles se sont lancées dans le grillage, comme si elles s'en souvenaient aussi. Des poules usées ou des vieux anges qui pinçait les doigts de mon petit. Le coq est resté en arrière, lui de son bord, puis moi du mien. Un peu fripé, mais toujours fier, j'ai su qu'il préparait sa fin. Ovide, le soleil se lève, mais on l'entend plus. C'est-tu le coq ou le soleil, ou ben c'est moi qui s'est perdu. J'ai été hier voir les décombres, j'ai trouvé le soleil endormi. Ovide.
Fort belle chanson de Fred Fortin qui s'appelle Ovide.
Alors, les journaux régionaux, les signes royaux sont de retour, c'est dans le droit d'aujourd'hui. Les signes, donc, sont dans leur résidence d'été, soit la rivière Rideau. La ville d'Ottawa a procédé à la traditionnelle cérémonie de remise en liberté. Les signes au plumage blanc sont les descendants directs des signes offerts par la reine II, la reine Élisabeth II, en 1967, pour souligner le 100e anniversaire de la Confédération. Les oiseaux au plumage blanc et noir navigueront sur les eaux de la rivière Rideau tout l'été jusqu'au retour du temps froid. Alors, un autre prétexte ou une autre raison pour aller faire un tour à Ottawa, les tulipes et maintenant les signes royaux. Dans la tribune Jasmine Rondeau, l'amour de la course, ça se partage. Des personnalités ou des personnes, dis-je bien, à mobilité réduite, ont désormais la chance de vivre les plaisirs de la course en plein air. Les courses partagées qui ont lieu chaque mercredi matin leur permettent de se joindre à la course de sportifs bénévoles à bord de chaises adaptées. Les courses partagées amorcent cette semaine leur troisième saison qui se poursuivra jusqu'au 10 octobre. Le projet lancé par Marc Terrien est grandement supporté en temps par ses parents Huguette et René Terrien, gagne constamment en ampleur. Tous les mercredis, les participants se donnent rendez-vous au parc Jacques-Cartier entre 9h30 et 11h30. On y jumelle les coureurs à leurs co-coureurs pour qu'ils puissent ensuite librement s'aventurer autour du lac des Nations. L'idée m'est venue du temps où je courais régulièrement et je me suis dit que ce serait vraiment bien de pouvoir partager cette expérience-là avec ceux qui ne peuvent pas le faire, confie M. Terrien. Il me manquait un fauteuil roulant qui me permettrait de promener facilement des gens à mobilité réduite. J'ai donc contacté la faculté de génie de l'Université de Sherbrooke et ils ont lancé le projet qui a mené au fauteuil Cartus. M. Terrien a lui-même acheté 6 Cartus, K-A-R-T-U-S, pour permettre à cette activité d'exister. Il espère pouvoir amasser assez de dons afin d'en acheter 5 autres bientôt, vu l'engouement suscité. Anne Morin, co-coureuse, est ravie de l'activité des Cartus. Je l'ai essayé quand je m'en suis rendu compte que j'étais capable de participer, que j'étais confortable malgré mon amputation, j'ai commencé à venir régulièrement. Les co-coureurs arrivent par transport adapté ou avec des proches. L'inscription à l'avance n'est demandée pour personne puisque les bénévoles répondent à l'appel chaque semaine. On a des gens de tous les âges, universitaires comme retraités. On est au moins une vingtaine à chaque course, se réjouit M. Terrien, qui a dénombré 40 coureurs bénévoles à la dernière course de 2017. Dans le soleil, Yann Bussière, carnaval, adieu, duchesse, bougie et défilé en basse ville, les prochaines présentations du Carnaval de Québec se conjugueront. Avec une semaine de festivités en moins et sans le traditionnel concours de sculptures sur neige, sans défilé en basse ville, sans bougie et sans les fameuses duchesses qui passent à la trappe pour la seconde fois. L'ex-directeur général du Festival d'été de Québec, devenu conseiller spécial du Carnaval, Daniel Gélinas, a présenté mercredi la vision de l'événement pour les prochaines années. On souhaite mettre l'accent sur les productions qui ont un potentiel commercial élevé et un calibre international. Les défilés qui seront bonifiés et se dérouleront uniquement en haute ville et les activités partenaires qui prendront différentes formes, dont la coproduction. Les trois intouchables étaient Bonhomme Carnaval, qui représente le branding de l'événement, le Palais de Bonhomme, qui est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs, et les défilés, qui sont la colonne vertébrale du carnaval. À côté de ça, tout pouvait bouger, a expliqué M. Gélinas. Éliminés en 1996, puis ramenés 18 ans plus tard, en 2014, les duchesses disparaîtront de nouveau en 2019. Nous avons analysé la question des duchesses de façon rationnelle. Les duchesses et les activités qui les entouraient amenaient un retour plus faible, suscitaient moins d'intérêt dans les sondages et moins d'achalandage, explique Daniel Gélinas. Le président du Carnaval, Alain April, a indiqué que cette question avait suscité beaucoup de discussions au conseil d'administration. Les tournées régionales se poursuivront, mais avec Bonhomme Carnaval. Une autre tradition associée aux duchesses, la vente de la bougie, passe sous le couperet également. Le carnaval préférant concentrer ses efforts de vente sur l'effigie, qui est aussi le laissez-passer officiel du carnaval. Quant aux sculptures sur neige, elles ne disparaîtront pas de l'environnement du carnaval, mais seront concentrées autour du palais de Bonhomme, qu'on veut élargir et rendre plus majestueux à l'image des constructions qu'on peut voir au Festival de sculptures sur glace et de neige de Harbin, en Chine. Il y aura des sculptures sur neige, mais on n'en fera plus un concours, a expliqué M. Gélinas, confirmant que le festival de Harbin avait inspiré l'organisation. Là-bas, des villages complets sont créés avec la neige et la glace. Et dans le Nouvelliste, Brigitte Trahan, place au troisième salon Écolo, sensibiliser la communauté à l'importance de préserver l'environnement au quotidien et donner de l'information sur les diverses façons d'y parvenir. Voilà l'objectif de la troisième édition du salon Écolo qui se déroulera le 3 juin à Sainte-Anne-de-la-Pérade. L'événement qui se veut carboneutre présentera de nombreux produits et services jugés éco-responsables et qui sont accessibles dans la région, notamment des produits bioalimentaires, des organismes soucieux de l'environnement, des entreprises écotouristiques ainsi que des producteurs locaux. Un des stands d'information sera consacré à la fabrication du compost et les visiteurs pourront prendre part au tirage d'un composteur domestique qui leur permettra de composter à la maison. La journée se déroulera de 10h à 16h à l'église de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Notons qu'une messe à saveur environnementale sera célébrée à 10h45 dans la sacristie.
D'être amoureux à Montréal. Le ciel est bas, la terre est grise, le fleuve est sale, le Mont-Royal. il est mal à l'aise, il a l'air de trop. Westmount le tient serré dans un étau. Il y a des quartiers où le monde veille sur le perron. Il y a un bonhomme qui en a fait une belle. Dans ces bouts-là, les jeunes se tiennent au fond des cours. Ils prennent un coke, ils prennent une bière, ils font l'amour. Où je suis né, il y avait un arbre tous les 20 pieds. Ça fait 20 ans depuis ce temps-là, ils ont coupé. Ma première blonde, je l'ai rencontrée dans un hangar. On jouait à guerre, elle était espionne. Moi, j'étais mort. Assis ces marches de l'escalier du restaurant, j'ai dépensé une bonne partie de mes 15 ans. Avec mon chum Tigil, avec le grand Pocket, on agaçait les filles, puis on s'appelait Tapette. Quand j'étais jeune, j'ai eu de la peine, j'ai ben broyé. J'ai cru mourir quand ma Mireille a m'a laissé. Elle m'avait dit qu'un jour peut-être elle m'appellerait quand ses parents seraient partis pour le chalet. Puis c'est arrivé, il fallait bien qu'un jour ça vienne, un soir de pluie au coin de Beaubien, puis la neuvième. Des fois j'y repense, je revois la fille, puis là je me dis, c'était sans doute le plus beau jour de toute ma vie.
Chanson magnifique de Beau Dommage, Montréal.
La chronique artistique culturelle, je vais lire le texte d'Hugo Dumas dans la presse d'aujourd'hui, intitulé « Le glamour québécois sauce TVA ». La nouvelle ère de la télé-réalité, le luxe, le glamour, Coachella. TVA en a beurré épais au lancement la semaine dernière de sa nouvelle télé-réalité pour célibataires XOXO, qui couvrira les ondes de son extravagance pailletée à l'automne. Comme on dit par chez nous, c'est mieux d'être bon en titi pour accoter cette cascade de superlatifs dorés. Comptez cependant sur l'efficace machine de Québécois Média pour mousser cette marque télévisuelle. Ça sent déjà la surdose multiplateforme, sac de chips, Vidéotron, séjour Alouette. Question d'importance cruciale maintenant. Associez-vous vraiment la Jet Set internationale à l'ex-lofteuse Elisabetta Fantonnet et au propriétaire du Beach Club de Pointe-Calumet, Olivier Primo? C'est discutable, mettons. Elisabeth Fantonnet, qui s'est recyclée en artiste peintre, a réussi à percer le marché de l'art contemporain de Miami, mais ce n'est pas une influenceuse à la Kylie Jenner ou Gigi Hadid. Olivier Primo a puisé dans le coffre familial pour ouvrir ou rouvrir le Beach Club avec un succès retentissant. C'est un gars sympathique, bien comique et hyper actif sur les médias sociaux. Est-il glamour? Non. Il entre plutôt dans la catégorie des fêtards à casquette à l'envers, tendance nouveau riche. Le seul des trois conseillers de XOXO qui coche tous les critères d'admission, c'est le styliste montréalais Kerry Tobin, le moins connu du trio. Son compte Instagram nous le montre avec Paris Hilton sur un yacht à Ibiza ou au défilé Chanel à Paris. Kerry Tobin, un vrai globe-trotter, affiche toujours des looks spectaculaires, audacieux, pas mal plus provocants que ceux d'Hubert Lenoir. La publicité de TVA qui s'est déchaînée contre Lenoir après son passage à La Voix, est-il prêt pour l'excentricité décomplexée de Kerry Tobin? Assurément, les présences de Kerry Tobin à l'écran provoqueront une flopée de commentaires pas toujours édifiants. Espérons qu'il réussira tout de même à décoincer quelques téléspectateurs à l'esprit étroit. L'émission XOXO s'amuse dans les mêmes plates-bandes qu'Occupation double que TVA a refusé de raviver à l'automne 2016 quand Julie Snyder le lui a offert. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que TVA envoie directement XOXO dans les pattes de son ancienne démone. On le sait, la popularité d'une télé-réalité ne tient pas au décor époustouflant ou à la marque de l'alcool qui commandite. Elle repose essentiellement sur les concurrents aux personnalités explosives. Enfermés dans deux villes à Bali, Joanie et Sandrick ont offert le feuilleton le plus divertissant de l'automne en buvant des bulles de nuit et du popper ice sur le bord d'une mini-piscine. Dans le concept de XOXO, au contour assez flou, TVA semble davantage miser sur le bling-bling et sur les apparences que sur les rebondissements. C'est peut-être une erreur. Ce qu'on aime dans les productions comme Occupation double, ce sont les triangles amoureux, les prises de bec et les trahisons. Comme TVA se définit comme le diffuseur d'émotions, on imagine qu'il sait déjà tout ça, non? Autre sujet, toujours signé Hugo Dumas. Bébéatrice à la télé. Publiée en 2015, la bande dessinée Bébéatrice, inspirée par les mots d'enfant de la fille de Guy Lepage et Mélanie Campo, traversera au petit écran sous forme de dessins animés. À l'automne, Tout.tv mettra en ligne 20 capsules d'environ 5 minutes des aventures de la très dégourdie Bébéatrice, 4 ans et demi, de son demi-frère Théo, de son papa Guy, de sa mamanie et de sa grand-maman Suzanne. En décembre, Radio-Canada regroupera les sketchs pour les diffuser en format de 4 émissions de 30 minutes. Bébéatrice, sorte de croisement entre les parents et un gars une fille, s'adressera à toute la famille et non pas seulement aux tout-petits. Le ton oscillera entre les moments touchants et les révérences. Guy Lepage prêtera sa voix à Papa Guy, son propre rôle, quoi. La distribution des voix comprend aussi Mélissa Desormeaux-Poulain, Mamani, Guillaume Lambert, Théo, Muriel Dutil, Suzanne et Elia Saint-Pierre, Bébéatrice. Très allumée, Bébéatrice passera des réflexions sur à peu près tous les sujets. Elle répète tout ce qu'elle entend autour d'elle et laisse parfois échapper quelques sacres. Une bonne partie du matériel de la série provient d'ailleurs de vraies phrases prononcées par Béatrice Lepage, maintenant âgée de 8 ans. « Je suis le script-éditeur de ma fille », constate Guy Lepage, dont la future femme Mélanie coproduit Bébéatrice avec Luc Châtelain d'Écomédia. J'ai dit Bébéactrice parce qu'à l'occasion, Guy Lepage appelle sa fille ainsi. Les parents de Béatrice ont tenu à ce que leur fille empoche toutes les sommes liées à ce projet. L'illustrateur Éric Godin, qui a créé le personnage de la BD, reprend évidemment du service pour le dessin animé. Même le chien Attaque, c'est le nom du chien. Même le chien Attaque de la famille Lepage-Campeau aura droit à son moment de gloire. Francofolie, cette année encore, les Francofolies mettent de l'avant une offre généreuse de spectacles gratuits, plus de 120 concerts, des classiques comme Éric Lapointe, Daniel Bélanger et Marjo, ainsi qu'une panoplie de nouveaux artistes dont Paupière, Zen Bambou, Laf et Corridor font partie de la programmation extérieure dévoilée hier. Parmi les nouveautés de cette année, il y a l'ajout d'une scène sur le parterre symphonique où seront présentés des spectacles de 90 minutes. Alpha Rococo, Laurent Jalbert, Dan Bigra, Les Respectables, Amadou et Mariam, Damien Robitaille, Ludovic Bourgeois, La Chicane et Vincent Vallière y joueront leurs chansons. Une sensibilité à fleur de peau. Samuel Pradier dans le Journal de Montréal, l'acteur Gérard Depardieu rend hommage à la grande Barbara. Sous une pluie d'applaudissements nourris, Gérard Depardieu a fait son entrée sur la scène de l'Olympia mercredi soir pour la première représentation montréalaise de son spectacle « Depardieu chante Barbara ». Rien ne pouvait mieux ouvrir la soirée que « Mémoire, mémoire », chanson extraite du spectacle « L'Illipation » que Depardieu a joué avec Barbara, au milieu des années 1980. Sur la scène, nu, trône un piano à queue devant lequel officie Gérard Daguerre, pianiste de Barbara, durant ses 20 dernières années. À ses côtés, dans une quasi-pénombre, Gérard Depardieu, debout le plus souvent, dit et incarne les mots de son ami. Les grands classiques comme « À mourir pour mourir », « Marianne Bade » ou « Le soleil noir » sont interprétés avec beaucoup de douceur et de retenue. Entre les chansons, le comédien dit les mots de Barbara, que ce soit des réflexions, des anecdotes ou des extraits d'entrevues. Il nous rappelle ainsi que la grande dame de la chanson française pouvait être capable de coups de gueule tonitruants. Au milieu de la chanson « Drouot », Depardieu fait une digression pour dénoncer la vente aux enchères de ses objets personnels, seulement 2 ans après sa mort. « Les morts ne veulent pas des avocats, des notaires ou des testaments », affirme-t-il, avant de se demander comment des commissaires-priseurs peuvent mettre un prix sur des objets qui n'en ont pas. Tout au long de la soirée, la salle a véritablement été suspendue à ses lèvres, comme en communion avec Depardieu et Barbara réunis. Toute la beauté des interprétations de Depardieu tient d'abord dans la sincérité de sa démarche et dans sa manière particulière de retenir certains mots, ou au contraire d'accélérer le rythme à d'autres moments. « Barbara est une des femmes avec laquelle j'ai le plus ri », confie Depardieu avant d'entonner « Emmène-moi » puis « À force de ». Les chansons les plus connues comme « Ma plus belle histoire d'amour »,« L'aigle noir »,« Nantes » ou encore « Göttingen » se déploient dans la dernière ligne droite avec toujours la même intensité. À travers ce spectacle, Gérard Depardieu laisse apercevoir derrière la caricature de l'ogre du cinéma français une grande sensibilité et un cœur généreux. Un secret qui restera gravé dans nos mémoires. Et je suis pas mal d'accord avec ce qu'il est écrit parce que j'ai eu la chance, je dirais, je me sentais privilégiée hier dans la salle de l'Olympia, un spectacle qui contient beaucoup de moments de grâce. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est la franchise de Depardieu et le fait qu'on puisse capter tous les mots. C'est un vrai acteur d'abord et avant tout.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, à Göttingen, pas de quais et pas de rengaines qui se lamentent et qui se traînent. mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France. Hermann, Peter, Helga et Hans à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence à Göttingen. Bien sûr, nous, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mon Dieu, que les roses sont belles à Göttingen, nous, nous avons nos matins blêmes. Et l'âme grise de Verlaine, eux, c'est la mélancolie même. À Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là, à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent, et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes, à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, la 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 la. C'est bien joli tout de même, c'est bien joli tout de même à Göttingen, à Göttingen. Mon cœur verserait une larme pour Göttingen.
Avant-dernière chanson que l'on retrouve sur l'album, sur le disque Depardieu chante Barbara, c'était la chanson Göttingen.
La nouvelle vient de tomber, c'est dans la presse plus, mise à jour dans un spectaculaire retournement. Donald Trump a annulé jeudi le sommet historique prévu dans moins de 3 semaines avec le leader nord-coréen Kim Jong-un, dénonçant la colère et l'hostilité du régime de Pyongyang. C'est dans un bref courrier d'une vingtaine de lignes adressé aux dirigeants trentenaires que le 45e président des États-Unis a annoncé sa décision de renoncer au face-à-face du 12 juin à Singapour, très attendu en Asie et à travers le monde, dont il avait lui-même accepté le principe à la stupéfaction générale. « J'estime qu'il n'est pas opportun à ce stade de maintenir cette rencontre prévue depuis longtemps », indique le locataire de la Maison-Blanche dans ce texte rendu public par l'exécutif américain. Après plusieurs semaines de déclarations très optimistes sur la tenue de ce premier face-à-face entre un président américain en exercice et un représentant de la dynastie des Kim qui règne sur la Corée du Nord depuis plus d'un demi-siècle, M. Trump avait changé de ton ces derniers jours. « J'étais très impatient de vous y rencontrer », poursuit M. Trump dans ce courrier. « Malheureusement, au regard de l'énorme colère et de l'hostilité affichée dans votre dernière déclaration, j'estime qu'il n'est pas opportun à ce stade de maintenir cette rencontre prévue depuis longtemps », ajoute-t-il. « Si vous changez d'avis concernant cet important sommet, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'écrire », ajoute le président américain qui avait beaucoup investi d'un point de vue politique dans ce sommet, allant jusqu'à évoquer à plusieurs reprises l'hypothèse d'un prix Nobel de la paix mise en avant par certains élus républicains. Après des mois de rapprochement et de détente diplomatique, la Corée du Nord a opéré la semaine dernière un spectaculaire retour à sa rhétorique traditionnelle, annulant une rencontre intercoréenne et évoquant la possibilité de remettre en cause le tête-à-tête très attendu. Frigo ou comptoir, pas toujours évident de savoir comment conserver ces aliments pour qu'ils gardent un maximum de fraîcheur et de saveur tout en évitant des pertes. Voici quelques astuces d'experts pour 10 produits. Chocolat, frigo ou comptoir, Mathieu?
Dans mon estomac, mais je le dirais dans le réfrigérateur.
Alors, mettre le chocolat au frigo est une erreur.
C'est ce que je disais.
Affirme la chocolatière Joanne Lheureux. Ça brise la molécule du chocolat, le rend très dur, granuleux, il deviendra blanc et goûtera moins, explique-t-elle. Et s'il y a de la ganache à l'intérieur, elle risque de durcir ou de briser à cause du froid. L'idéal est de conserver le chocolat dans un endroit frais, à environ 15 degrés Celsius, dans son emballage. On évite de le déposer sur un comptoir en plein soleil. L'été, s'il fait chaud dans la maison, on peut ranger le chocolat au sous-sol ou même au garage. On évite aussi de le placer près des oignons afin qu'ils n'absorbent pas leur odeur et leur saveur. Une tablette de chocolat peut facilement se conserver un an à température ambiante, souligne Joanne Lheureux. Orange, frigo ou comptoir?
Non, comptoir.
Les oranges, tout comme les tomates, sont particulièrement sensibles au froid du réfrigérateur. Mieux vaut donc les garder sur le comptoir, indique la chercheuse scientifique chez Agriculture et Agroalimentaire Canada, Marie-Thérèse Charles, spécialisée en physiologie post-récolte. Tout dépend aussi du stade de maturité. Moins l'orange est mature, plus elle est sensible, souligne-t-elle. Comme il est difficile de connaître le degré de maturité d'une orange à l'épicerie, elle pourra mieux mûrir à température ambiante et ainsi donner un maximum de saveur. On poursuit avec pomme, Mathieu.
Réfrigérateur.
Les pommes se conservent très bien au réfrigérateur et y garderont leur fermeté. Mais attention de ne pas les mettre à côté de certains fruits et légumes. Marie-Thérèse Charles explique que les pommes produisent beaucoup d'éthylène, un gaz naturel qui permet aux fruits de mûrir par lui-même. Si on place des carottes, par exemple, à côté des pommes, les carottes absorberont l'éthylène et développeront un goût amer. Mieux vaut donc les placer dans des bacs séparés. Café.
Oh non, ça c'est certainement le comptoir.
Le comptoir. Alors, le café moulu ou en grains ne devrait pas être entreposé dans le réfrigérateur ou le congélateur. Il peut prendre l'odeur et la saveur des aliments du frigo. Et ça ne ralentira pas le processus du vieillissement du café, indique le chef barista et gérant du Café Ingamba à Montréal, Simon-Pierre Caron. Il est préférable de conserver le café dans un endroit sombre avec le moins d'humidité possible et dans un contenant hermétique. Quand on l'achète, mieux vaut donc le transférer du sac en papier à un contenant hermétique. Et afin de garder la fraîcheur et la saveur du café, le barista conseille d'opter pour des grains de café et de les moudre soi-même à la maison au fur et à mesure. Car le café se détériore et commence à perdre de son goût dès qu'il est moulu. Autre point, chaque fois qu'on sort le café du frigo, on l'expose à un changement de température, ce qui provoque une condensation, même s'il est invisible à l'œil nu, explique la chercheuse scientifique Marie-Thérèse Charles. Comme les microbes aiment la présence d'eau libre, le risque que la qualité du produit soit touchée augmente. Et pourquoi ne pas conserver le café au congélateur? Ça brûle la mouture, répond Simon-Pierre Caron. Le café en grains se conserve un mois à température ambiante, contre 2 semaines pour le café moulu, précise-t-il. Aïe!
Sous un diapchilon?
Hein?
Non, je dis n'importe quoi.
Oui, je vois ça.
Ben, le comptoir, certainement.
Parce que vous aviez entendu « aïe, aïe, aïe ».
Exact.
Oui.
C'était une très mauvaise excuse auprès des auditeurs.
Ben oui, mais on vous la pardonne. Alors, si on place l'ail au frigo, il va germer plus vite. Ah bon? Note Mme Charles, mieux vaut le conserver dans un sac en papier à l'abri de la lumière, à température ambiante, ajoute la professeure à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, Nicole-Anne Gagnon. On pourra le conserver 1 à 2 mois. Fraise.
Habituellement, quand j'en achète, elle ne dure pas assez longtemps pour que je
puisse les conserver. C'est un peu comme votre chocolat.
Je dirais au réfrigérateur. Non, sur le comptoir.
OK. Alors, c'est bientôt le temps de savourer les délicieuses fraises du Québec. Pour garder leur goût sucré, l'idéal est de les conserver sur le comptoir et de les manger rapidement. 1 ou 2 journées après les avoir achetées, conseille la chercheuse scientifique Marie-Thérèse Charles. Car contrairement à l'orange, une fois que la fraise est récoltée, son goût décline, explique-t-elle. Mieux vaut donc ne pas trop en acheter. Autre astuce, on retire les fraises de leur barquette et on élimine celles qui commencent à pourrir car elles accéléreront la détérioration des autres fraises. On peut conserver les fraises dans un contenant qui ne soit pas complètement fermé pour permettre aux fruits de respirer comme dans un sac perforé. Et il en reste quand même quelques-uns. On va accélérer un peu le rythme, Mathieu. Banane.
Comptoir.
Si on dépose une banane qui n'est pas mûre au réfrigérateur, mûrira-t-elle plus vite? Non, répond Mme Charles, même si elle devient noire plus rapidement au frigo. Ce ne sera pas un signe de maturation, car la banane peut devenir noire à la suite d'un choc thermique, c'est-à-dire lorsqu'elle est soumise à une température beaucoup plus basse que sa température optimale. Dans ce cas, elle ne sera pas forcément sucrée, explique-t-elle. La banane sera plus sucrée seulement si elle a noirci à la suite d'un stade de maturité avancé. En la laissant sur le comptoir, on a un meilleur contrôle sur sa maturation. Alors, le pain, lorsqu'on met le pain au réfrigérateur, on l'expose à un processus de condensation, car chaque fois qu'on le sort, on le place à une température supérieure à celle à laquelle il était. Fines herbes ont tendance à rapidement faner et brunir si on ne les conserve pas de la bonne façon. Pour celles à feuilles souples, comme la coriandre, la menthe ou le persil, on les lave, on les sèche avec un essuie-tout, puis on les place dans un pot avec environ 1 pouce d'eau au réfrigérateur. Puis on couvre les herbes avec un sac en plastique pour que les feuilles gardent leur humidité et soient protégées de l'air sec du réfrigérateur. Sirop d'érable, on peut conserver le sirop d'érable dans une armoire, même une fois entamé. C'est tout pour l'émission. Merci Mathieu.